y a un complot. Un complot qui provoquera des événements terrifiants.
Zététique. Peut-elle casser les briques?
Quoi?
Non, je sais.
Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs.
Le savoir est une arme d'instruction massive.
Ouais, tu calmes.
Souviens-toi que c'est les vainqueurs qui rédigent les livres d'histoire.
Une épitaphe pour quelques copains.
Non, je sais.
C'est la deuxième partie de l'émission sur le sujet. Dans la première partie de l'émission, on était plutôt allé sur essayer de comprendre d'où naissent les théories du complot et essayer de se donner quelques précautions en termes de posture, d'être préalable à la discussion avec une personne qui paraît être une tenante de on voudrait. Voilà, c'est pas un travail qu'il a fait tout seul, même si je suis tout seul là, je me suis fait lâcher par mes collègues. On voudrait d'abord faire quelques compléments à ce qu'on avait dit autrefois, et après passer un peu à d'autres aspects. Les deux compléments qu'on voulait faire, le premier était sur le c'était de dire que, on a raté un élément, je pense, la dernière fois, c'était de dire que l'appétence que certaines peuvent avoir pour la théorie du complot vient aussi du fait que ce sont des simplifications extrêmes du réel. Et en ça, elles sont rassurantes. On peut tout expliquer avec une thèse, une même mécanique, un même hypothèse. C'est leur force, parce que du coup, elles sont très épuisantes, elles sont rassurantes, etc. Mais comme dit leur nom, c'est aussi leur extrême pauvreté, c'est-à-dire que expliquer tout fait social par les complots, ça porte pas très loin. Sur la forme, la deuxième complément que je voulais faire, c'était de redire que les outils qu'on va utiliser là, on ne les a pas expérimentés énormément. Pas tous, pas dans ce contexte précis qui était, donc je le rappelle, une interpellation de l'animateur et d'animatrice qui bossent en maison de petit, en maison de jeune, etc. Ils disaient, suite au confinement, on va retrouver les jeunes avec on en a peur que ces jeunes soient approuvés de toutes les compétences qu'on s'est trouvées sur les réseaux sociaux, etc. On en voit déjà circuler. Et on a peur de se sentir un petit peu démunis face à ça. Donc c'était en réaction à ça. Donc de dire qu'on n'a pas forcément expérimenté dans ce contexte-là pour voir qu'est-ce qui vous paraît pertinent dans ce qu'on raconte. On voulait dire aussi que ça vaut le coup d'écouter la première partie de l'émission, sinon on passe vraiment à côté de pas mal de choses que je ne vais pas reprendre, mais notamment les questions de posture, elles sont assez importantes. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on se propose de faire, c'est d'essayer de lister quelques mécaniques internes théoriques du complot, quelques mécaniques de raisonnement, voilà, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et puis, dans un deuxième temps, essayer de se donner quelques pistes, quelques outils utiles dans cette démarche d'aller discuter avec qui adhère à une. Assez humblement, c'est pas magique. Je vous propose, les copains de qui sont avec moi sur l'émission, de ne pas hésiter à intervenir entre deux mécaniques, soit pour faire un complément, pour ajouter un truc, une anecdote. Parce que, et vu que je suis tout seul à raconter ça, ça reste aussi un petit peu mauvais. Donc, les différentes mécaniques, alors elles ne sont pas exhaustives, mais on va essayer de s'en lister. Une des mécaniques qui amène à des théories, c'est de penser un événement à partir de la question à qui profite le prix. Alors, si c'est effectivement important de s'intéresser à divers intérêts que différentes parties ont à tirer d'un événement, ça ne peut pas être la première question qu'on se pose. Et ça ne peut pas être la seule. Être la première parce que sinon on s'expose au risque d'occulter pas mal de faits. En fait, on cherche un coupable, caché, et on occulte pas mal de faits qui sont assez prouvants, ce qui nous amènera à penser aux choses, parce qu'on se demande simplement, c'est pas la seule question, et ça peut pas, c'est pas celle qui nous amène à tous les aux responsables. On peut prendre l'exemple de Noam Chomsky, qui déclarait dès le 11 septembre 2000, toujours des attentats, qui déclarait que toutes les puissances du monde, de toute façon, chercheront à tirer profit de la situation. Et que donc cette question n'est pas pertinente pour trouver des responsables. Pas suffisante. Et de fait, il semble que pas mal de puissances du monde en ont tiré profit. Voilà. Une deuxième mécanique, ça consiste à plus ou moins délibérément ignorer des faits. Alors, ignorer ou occulter des faits. Ignorer des faits, on va prendre comme exemple, par exemple, il y a pas mal de personnes qui vont affirmer à propos des missions Apollo, et certains complots estiment qu'elles n'ont pas eu lieu, poser un cul sur la Lune. Eh bien, il y a pas mal de
pieds. Des pieds.
Tu dis, pardon ?
Des pieds.
Des pieds, ou nous aussi, tout un tas de merdiers. C'est un langage, machin, des pieds. Donc, pas mal de personnes affirment que les seules archives qu'on dispose à propos des missions d'Apollo sont les quelques photos claquées avec le drapeau, des ombres qui sont bizarres, il n'y a pas d'étoiles.
Le drapeau qui flotte.
Comment tu dis ?
Le drapeau qui flotte.
Le drapeau qui flotte. Et donc, et de dire que c'est les seules traces qu'on a. Alors que, il suffit de se renseigner un tout petit peu pour s'apercevoir qu'on dispose d'une quantité énorme de photos, d'enregistrements radio, de vidéos pour chacune des missions et qu'elles sont en libre accès. Et donc, ignorer les faits, dans cette situation-là, d'où ça vient, ben, peut-être du fait que j'ai cru comprendre quelque part cette info que je n'ai pas vérifiée, ou voir que simplement j'ai été exposé que à ces photos-là qui tournent en boucle sur les sites complotistes. Et donc, j'ai fait des. Sur moi-même, de dire puisque c'est potentiel citerienne, ça veut dire qu'on a tout ça. Bon, du coup, pas consciemment, je peux ignorer les faits, et je peux aussi en occulter, c'est-à-dire délibérément choisir d'ignorer tel ou tel aspect qui ne cadre pas avec ma thèse. Alors, on a un exemple assez spectaculaire avec ce qu'on appelle le récentisme ou la nouvelle chronologie. Donc, c'est des gens qui vont estimer que l'histoire est une construction à ce point qu'on a rajouté. 500, 800 ans d'histoire, artificiellement. Alors, pour diverses raisons, hein, il y a différents pays là-dedans. Et notamment, on va retrouver des gens qui disent que tout le bas Moyen-Âge n'a pas existé, donc la période de 1500 ans. Et notamment, qui disent qu'on n'a aucune trace archéo de cette période. On n'a pas de monnaie, on n'a pas de. Voilà. Et alors que c'est tout à fait établi, c'est juste qu'ils choisissent délibérément de dire non, ça ne compte pas. Donc, ignorer aucune des faits. On a une petite mécanique qui est un petit peu retorse, qui consiste à avancer une hypothèse. Alors, par exemple, le spécialiste de ça, c'est Thierry Messant, qui est un type qui a écrit pas mal de bouquins sur comment il n'y a pas d'avions qui sont atterris dans le Pentagone et que les avions n'étaient pas Ben Laden, mais probablement pas Al-Qaïda, mais probablement plutôt un. Et donc, lui, la mécanique qu'il utilise beaucoup dans son bouquin, c'est le fait d'avancer une hypothèse en prenant plein de pincettes, en donnant plein de sources, quelque chose d'assez établi. Voilà, on peut, à partir des sources que je vous donne, supposer que peut-être, alors à ce moment-là, on peut déduire ça. Et puis, quelques paragraphes plus loin, cette hypothèse devient une certitude, un fait établi. Et donc, construire tout un raisonnement en enchaînant ce genre de choses, bah, c'est assez redoutable parce que. En fait, c'est assez dur de mettre le côté. Quand on le lit, c'est assez bien fait. On a une autre petite mécanique qui consiste à. Alors, c'est un double mouvement. À la fois, on va surestimer l'ennemi et à la fois, on va le sous-estimer. Alors, on va surestimer l'ennemi en se disant que, puisque l'ennemi, ce sont des puissants qui agissent dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, voire des sauriens, des personnes. Eh bien, ils sont capables de nous cacher que, de nous cacher ceci. Donc, on les surestime, et donc, c'est assez paralysant comme. Deux phénomènes évoluent ensemble. Quand il y a un phénomène qui augmente, eh bien, on va avoir un autre phénomène qui augmente aussi. Donc, le fait qu'ils évoluent en même temps ne veut pas dire qu'ils sont liés par l'un cause l'autre. Il peut y avoir d'autres raisons, on en a parlé dans notre émission sur les biais cognitifs, sur les biais de raison. Je ne reviens pas spécialement dessus, mais là où on trouve ça pas mal dans les théories, c'est dans cette idée qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que s'il y a une corrélation, c'est qu'il y a une causalité, il ne peut pas y avoir de croissance. Et donc, par exemple, on va prendre l'exemple de... Il y a des gens qui disent que les événements du 11 septembre... alors en anglais ou en américain, je ne sais pas trop, on inverse, on dit, c'est pas le 11-09, c'est le 9-11. Et donc 9-11, ça fait 9-1-1, ça fait 9-1-1, c'est le numéro de la police. Et c'est pas une coïncidence, tout à fait significant, ça veut dire quelque chose. Et en fait, ça correspond à une mauvaise perception des probabilités qu'on a, c'est-à-dire de dire, on va lire a posteriori les probabilités d'un événement. On va se dire quelles étaient les chances qu'on tombe précisément sur cette date, le 9-9-1-1. Et alors oui, elles sont de 1 sur 365, d'accord, c'est pas énorme. Mais les chances de tomber sur un nombre signifiant, au hasard, c'est quasiment 100%. C'est-à-dire que, quelle que soit la date qu'on prend, on va réussir à lui trouver a posteriori une signification. Et ça, cette mécanique-là, cette mécanique de lire les probabilités a posteriori, la numérologie fonctionne beaucoup là-dessus. Voilà. Donc la supériorité en niant les coïncidences. Alors, on a souvent aussi affaire à des conclusions qui sont irréfutables. Dans les théories hypothétiques, on va trouver des théories qui tournent en boucle et voilà, qui sont irréfutables. Sa manifestation la plus courante de cette irréfutabilité, c'est le fait de rejeter les éléments, les arguments qui vont contre sa thèse, puisque ces arguments proviennent de personnes ou d'organismes qui sont asservis ou responsables. Du coup, elles ne sont pas valables, c'est eux qui les fabriquent. Dans le même ordre d'idée, on trouve l'inversion de la charge de la preuve. On va nous dire, prouve-moi que le complot n'existe pas. Prouve-moi que l'ONU ne manipule pas tout le monde pour faire croire aux gens qu'ils manipulent. Ah non, si tu affirmes l'existence que quelque chose se passe, que quelque chose existe, bah c'est quand même plutôt à toi d'apporter les preuves de l'existence de ce machin. Se retrouver à prouver l'inexistence de quelque chose, c'est une situation qui est impossible pour nous dans le cas. De faire attention à ce moment où il y a une inversion de la charge de la preuve. Et puis on rajoute au passage que plus l'affirmation que la personne fait est extraordinaire, plus ça va nécessiter des preuves solides extraordinaires. Si je vous dis qu'il y a un oiseau dans mon jardin, bon, ça n'engage pas à grand chose, vous pouvez me croire un peu sur parole, je n'ai peut-être pas beaucoup de preuves à vous apporter pour que vous puissiez. Par contre, si je vous dis que c'est une licorne qu'il y a dans mon jardin, là peut-être que vous allez demander des preuves un petit peu plus conséquentes pour y aller.
Peut-être
c'est.
Non, je me disais, il y a un complément là-dessus qui est de dire c'est un peu le même système qu'en droit, en tout cas en droit français, parce qu'en droit, par exemple, en Angleterre, c'est pas la même chose, mais de dire c'est bien à l'accusation d'apporter la preuve que si on m'accuse d'avoir cassé une vitrine, c'est bien à la personne qui m'accuse d'apporter la preuve que j'ai cassé une vitrine, parce que apporter la preuve que je n'ai pas fait ce dont on m'accuse, ben, en fait, c'est quasiment impossible. Et du coup, c'est bien ce truc-là, ça fonctionne comme ça, en tout cas le droit pénal français, de dire c'est bien à la personne qui accuse d'amener les éléments pour prouver ce qu'elle avance. Et du coup, d'où la question de la présomption d'innocence, etc. Je trouve que c'est un exemple qui permet d'illustrer un peu le truc, quoi.
Avec la limite que, parce que je trouvais dans pas mal de moments dans le droit, peut-être que on va se satisfaire d'un soupçon. Un soupçon d'indice va nous suffire.
Un élément, tout à fait.
Attention à la sensibilité
d'indice. Ouais. Oui, je parlais juste du principe, je ne dis pas que l'application est réellement celle-ci, mais j'ai l'impression que le principe de droit, il s'appuie sur cette logique-là. Après, dans la pratique, de fait, on sait que ce n'est pas ça qui se produit la plupart du temps. Quoi.
On devrait s'appliquer.
Ouais.
Le professeur d'indice devrait pas être un élément suffisant.
Mmh. Oui, la question de la valeur de la parole de la personne qui est accusée et de la valeur de la personne qui accuse ne devrait pas jouer, quoi.
Ouais, ça pose plein de questions, je crois. Mais ouais. On trouve en tout cas la même mécanique. Je poursuis. Alors, donc on va retrouver des situations des conspirationnistes Alors, je suis conspirationniste, enfin, j'ai écouté la première émission pour une fin de phrase. Donc, les conspirationnistes s'appuient sur des événements scientifiques parfois assez pointus. C'est vrai. Et on ne peut pas convaincre nier ça. Seulement, ils en font un usage, ce qu'on appelle un usage ad hoc. Je ne convoque pas la science et ses outils, la science et ses outils, que lorsqu'elle conforte ce que je cherche à montrer. Parfois, je donne une apparence scientifique en étant convaincu, bien fondé de ce que j'avance, donc je donne une apparence scientifique à un raisonnement pourri. Et on a un super exemple, encore une fois, dans le livre de Thierry Messian. Alors là, je vais en lire un extrait. Parce que c'est assez. Alors, c'est un court paragraphe, je vous dis. Donc Thierry Messian, donc là il est en train de démontrer pourquoi est-ce que les avions qui sont crachés dans les trous n'ont pas pu être pilotés par trois talibans formés dans le monde. C'est ces termes. Donc il dit, non seulement les pilotes ont dû régler l'altitude du crash, mais aussi positionner les appareils latéralement. La largeur des trous jumelles est de 63,70 m. L'envergure des Boeing 767 est de 47,60 m. On observe sur les vidéos que les appareils ont percuté avec précision le centre des cibles. Un simple déplacement de 55,65 m et les avions auraient manqué leur frappe. À vitesse moyenne, 700 km/h, cette distance est parcourue en 0,3 s/s. Vu le peu de maniabilité de ces engins, voilà un tour de force pour des pilotes chevronnés, à plus forte raison pour d'apprentis. Donc, là, on a affaire à Thierry Messian, il provoque des calculs pour dire pourquoi est-ce qu'en 0,3 s/s, c'est pas possible pourquoi est-ce que le temps de réaction nécessaire pour fixer la cible est peut-être 0,3 s/s, c'est pas possible de réagir aussi. Le truc, c'est que ce raisonnement est pourri. Alors, première chose, premier aspect qui met un peu la puce à l'oreille, il fait preuve dans son chiffre, il avance une précision qui est ridicule. C'est-à-dire dire qu'à 55,65 m, on parle de 65 cm, il aurait raté la cible. C'est ridicule. Voilà, c'est donne l'apparence de quelque chose de solide en donnant une précision comme ça, dans l'effet d'ancrage. Et par ailleurs, le raisonnement est erroné. Avec ce même raisonnement, prouver qu'une voiture ne peut pas rester sur une route. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est que l'avion va à 700 km/h. Donc, en allant à 700 km/h, il parcourt la distance de 55,65 m en 0,3 s/s. Je fais le calcul, c'est vraiment beau. Mais le truc, c'est que par contre, cette distance-là, dans la direction dans laquelle il va, pas latéralement. Autrement dit, si on considère que je ne sais pas comment vous expliquer ça clairement, je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs. Si je suis en voiture sur une route, eh bien oui, une route en moyenne, enfin une voie de circulation en moyenne, ça fait 3,50 m.
Sur 3,50 m
en voiture, c'est moins de 0,3 s/s, c'est 1, quelque chose, 1 s/s. Et oui, donc je suis dessus, je ne crois pas. Vous voyez la logique. Raisonnement de merde. Le truc, c'est que chercher à. C'est pénible de chercher à montrer que c'est pas vrai, c'est ce genre de raisonnement qui sont complètement intercutants, qu'une accumulation de petits raisonnements comme ça. C'était clair à peu près cette histoire?
Tout à fait, tout à fait.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu la largeur d'une piste d'atterrissage, mais on est quand même content que les pilotes la ratent pas à chaque fois. Hein.
Ouais, c'est clair. Ok, ensuite on peut parler rapidement du millefeuille argumentatif, c'est en lien. Alors le millefeuille argumentatif, c'est le fait d'accumuler une série d'arguments faibles, parfois fallacieux, et en fait c'est l'effet d'accumulation qui, par fatigue de l'esprit, finit par convaincre qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Il y a tellement de choses qui laissent penser que, voilà. Et c'est très efficace. C'est très efficace parce qu'on ne prend pas la peine d'aller. Douter, on ne peut plus douter de chacun des arguments qui sont avancés. Pour aller plus loin sur ces différentes mécaniques, je vous invite à aller regarder un article sur le site du Monde Diplomatique, un article de Benoît Brévy, qui s'appelle « 10 principes de la mécanique conspirationniste », et donc qui reprend certains que j'ai proposés ici et qui va en explorer quelques-uns.
On vous mettra le lien sur le podcast de l'émission.
Ouais. Globalement, le monde diplomatique, c'est en fait une recherche en apprenant conspirationniste. Il y a pas mal d'articles qui sont assez... alors, on se proposait dans une deuxième partie d'essayer de donner quelques pistes, quelques pistes dans la discussion avec une personne qui adhère à une théorie qui nous semble complexe. Alors, on va essayer. Déjà, première remarque, il n'y a pas de recette magique. Voilà, il n'y a pas de guide, il y a tout fait, il n'y a pas de truc qui va marcher à tous les coups. On va pouvoir essayer de se donner quelques pistes, mais. Première chose, ça pourrait être de se dire que connaître les mécaniques principales d'un raisonnement conspirationniste, c'est à faire, ça aide pour pouvoir les relever, mettre le doigt sur ce qui est foireux, etc. Cela dit, ça demande un effort assez conséquent. Souvent, ça demande de mettre son esprit critique à plein régime et passer pas mal de temps à déguster ces mécaniques. Voilà, donc inévitablement, ça consomme du temps, de l'énergie, et on n'a pas toujours une distance d'énergie. Et par ailleurs, on peut se dire qu'il est peut-être plus riche. Donc on se remet dans la situation de Julien, un ami ou une amie qui accompagne des jeunes dans sa vie de quartier. Bref. Et donc il est peut-être plus riche d'embarquer ces jeunes qu'on accompagne, les embarquer dans cette recherche pour la faire ensemble, que de bosser dans son coin la question. Et débarquer avec une liste de petits documents qu'on va opposer. Peut-être on peut le faire aussi, mais se passer de faire ensemble ce processus-là, c'est risquer que la personne, elle n'en tire pas grand-chose à la fin, en termes d'éducation politique, en termes de... Elle va éventuellement se mettre à douter de cette théorie-là, mais elle aura probablement pas plus d'outils pour essayer de décortiquer la prochaine qui va lui tomber dans les yeux. Alors, deuxième piste, on peut repartir de l'exemple de Renaissance et son savant calcul des vitesses des avions, etc. En se disant que c'est un seul paragraphe dans un bouquin qui compte 330 pages. Ce bouquin, il est rempli ce type de raisonnement. Et ce bouquin, c'est en réalité un ouvrage parmi des milliers de livres et de sites qui propagent ce genre de thèse, et en étant rempli de ce genre d'articles. Je vous laisse vous convaincre que c'est plus facile d'y adhérer en les lisant que d'écouter de chacun de ces titres-là, de relever les trucs foireux de manière méthodique. Sans parler que, comme quelqu'un ne peut pas se tromper tout le temps, pas avoir tort tout le temps, parce que forcément, quand on parle suffisamment longtemps, on finit par avoir raison sur moi. Et ben, il y a forcément donc des trucs vrais dans ces théories. Et ces petits bouts de trucs vrais ne doivent pas suffire à nous faire adhérer vaguement à l'ensemble. C'est un peu l'enjeu, je pense, dans la discussion avec un jeune en tant qu'anime. Une fois qu'on l'a emmené sur le terrain de la rationalité, si on s'attache à décortiquer quelques arguments, il y a le risque de s'y perdre. C'est-à-dire que si on essaye de démonter tous les arguments pied à pied, on risque de ne pas y arriver. Je pense que c'est possible de le faire un peu, mais l'enjeu me semble plutôt d'être de donner les outils aux personnes pour le faire elles-mêmes et de peut-être donner quelques raisons de douter. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à avoir douté que, peut-être que je prends un autre exemple qui me concerne, l'homéopathie, il y a des raisons de croire que c'est peut-être pas si certain que ça fonctionne aussi bien que ça. Et au bout de quelques discussions où on m'a laissé comprendre ça, même si je ne me suis pas approprié tout, ça me donne la matière en fait à aller douter de ma propre croyance et donner les outils et faire naître. Plutôt de chercher à être exhaustif. Ok, une autre piste. Ça c'est un conseil méthodologique un peu général. Hein. Mais c'est le fait de se forcer à s'exposer à des arguments contradictoires. On va chercher à confirmer ou à infirmer ce qu'on trouve en se servant de plusieurs sources. La diversité des sources, c'est compliqué parce que on peut relever que si tu regardes plusieurs journaux et que tous ces journaux se font sur la même dépêche AFP sans vérifier la dépêche, de la dépêche, c'est une seule source, c'est pas plusieurs sources. De la même manière, si c'est pas parce qu'il y a 350 tweetos qui ont retweeté un vieux photomontage que je clique, c'est plusieurs sources. Ça demande de remonter à la source, etc. C'est un peu chiant, un peu laborieux.
Mais ça demande
nécessaire.
Ouais, et puis ça demande aussi d'avoir une vigilance quand on lit une information ou qu'on voit une information, à regarder si la personne qui diffuse cette information, elle a la source, et du coup, si elle nomme la source, ou si, par exemple, sur de la vidéo sur YouTube, La personne, elle met les différentes sources de ce qu'elle avance dans la description de la vidéo, etc. Enfin, j'ai l'impression que ça peut déjà être une base de...
Tout à fait, oui. Et bah ouais, alors je termine sur ce point-là, mais c'est vrai que le point d'après, il est sur la question des photos et des vidéos, et donc comment on remonte. Alors moi, je voulais terminer sur la question des sources en disant déjà, il me semble qu'il faut distinguer le journalisme d'investigation et le journalisme de commentaire. On lit un article, une grande majorité d'articles qu'on trouve, c'est des articles qui sont faits vite, parce que ça permet de gagner des vues. Et que souvent, c'est simplement du commentaire d'actualité. Voilà. C'est pas la part du journalisme, il me semble. On va parler de journalisme d'investigation. Dans ces cas-là, on va pouvoir remonter aux sources, c'est assez documenté, on a accès aux données. Et souvent, on peut parler de Wikipédia rapidement. Moi, il me semble que c'est la meilleure source, en tout cas, si on s'en sert correctement. En tout cas, c'est, il me semble, souvent la première source à aller voir. Alors, ça demanderait de se pencher un peu plus sur le fonctionnement de Wikipédia pour comprendre pourquoi, mais on peut dire au moins que la structure collaborative en fait un outil assez fiable. Et non, tous les articles ne se valent pas, non, tout n'y est probablement pas exact, et tout n'y est pas. Mais bon, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup mieux comme point de départ. Alors ça nous sert souvent, ils ne vont pas s'arrêter là, souvent ou aller croiser, etc. Mais voilà. Notamment parce que beaucoup de ce qui est avancé sur Wikipédia est sourcé. Donc remonter à qu'est-ce qui permet à enfin, aux gens qui ont écrit sur Wikipédia d'affirmer ça et de formuler comme ça.
Ça va aller dans ton sens, Manu, c'est aussi le démarche de la publication scientifique que d'être sur quelque chose de collaboratif. Et de faire relire, alors là, on est dans un secteur particulier qui est celui des gens reconnus comme étant des scientifiques, mais d'aller faire vérifier le travail que j'ai fait par mes pairs avant de pouvoir le publier, c'est aussi une démarche collaborative.
Et carrément.
Et c'est
vrai que... Vas-y.
Et aujourd'hui, Wikipédia est considéré comme la source la plus fiable d'informations et de recensement des connaissances actuelles, quoi. L'encyclopédie universaliste, c'est plus la référence, c'est Wikipédia la référence.
C'est ça le problème.
J'ai l'impression, par exemple, le CNRS, dans ses communications, renvoie ça, quoi. Il faudrait que je vous retrouve la source de ce que j'avance. Mais...
Ça pourrait être bien, ouais.
Et dans le fond, je trouve ça toujours un peu cool. Enfin, moi, je le disais subjectivement, parce que... je le disais subjectivement en disant que j'estime que... Et je le disais en... Enfin, il faut aller voir un peu dans le détail des raisons pour lesquelles ça me semble que ça nous semble être la meilleure source. Souvent, on va pas convaincre quelqu'un qui est à peu près convaincu que l'État, la science et des gens qu'on connaît pas... sont de mèche pour nous faire croire des trucs que Wikipédia fait partie de tout le monde. Enfin, ouais, c'est compliqué la question des sources avec quand on discute avec les personnes qui disent c'est pas magique, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'essayer de s'accorder sur comment on peut hiérarchiser des sources et se mettre d'accord sur le sujet. Alors, sur la question des photos et des vidéos. Alors, il y a pas mal d'outils qui ont éprouvé la fiabilité, et y compris des choses qui sont assez accessibles, qui ne sont pas si complexes. Outre le cas des trucages photos, vidéos, c'est rare que. C'est pas rare non plus que simplement des photos soient détournées, qu'on fasse un usage détourné. Du genre, on prend des images qui ont été prises en 2003 à Dortmund en Allemagne, et ça finit par illustrer un événement à Kiev en Ukraine en 2017. Pour mettre le doigt là-dessus, il y a une manière de faire, c'est d'utiliser des moteurs de recherche inversés, de recherche par image. On va mettre l'image dans notre recherche et il va nous retrouver les différents contextes dans lesquels cette image a déjà été publiée. Ça peut éventuellement nous permettre de montrer que ça a été pris avant les faits. Ça a été pris ailleurs. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais tous les fois, vous pouvez dans les données existent des images, des données, des éléments qui nous disent à quel endroit c'est pris. Et à quel moment. ce n'est pas évident, il y a aussi, donc voilà, c'est pas évident sur ce travail-là, mais au moins de ce qu'il doit voir, est-ce que ça, il n'y a pas d'autres occurrences extérieures à la publication de ce qui s'est illustré, c'est assez juste. Il y a France 24 qui a fait un article guide sur comment vérifier les images des réseaux sociaux. Ça date de 2015. Ça s'appelle comme ça, comment vérifier les images des réseaux sociaux. Il y a pas mal de ressources là-dessus. Ça peut valoir le coup d'aller regarder si vous voulez. Globalement, j'ai envie de dire qu'un des objectifs, c'est de filer aux personnes les outils de la science et des outils pour qu'elles puissent mener leurs enquêtes. Alors j'ai entendu par exemple parler d'une... Je sais que c'est une rumeur que j'ai pas vérifiée, alors c'est mal, je vais la relayer en disant c'est bon. Une rumeur qui parle d'un groupe de platistes, c'est des personnes qui estiment que la Terre est plate et qu'on mange. Bref, alors là-dedans, il y a une bonne partie de trolls, de gens qui s'amusent de propager ça sur Internet, mais il y a des gens aussi qui y croient pour de vrai. Donc, il y a un groupe de platistes qui aurait cherché à méthodiquement vérifier que la Terre était plate avec les outils de la science, et on filmait leur démarche. En fait, elles ont trouvé qu'elles ne l'étaient pas. C'est plutôt intéressant comme démarche. Ils ont trouvé que la Terre était ronde, ce qui les a fait changer d'avis. Voilà, d'où mon idée de dire, mais peut-être que en donnant les outils aux personnes, les outils de la science et des scientifiques, et pour compléter une dernière intention, c'est-à-dire que se servir de cette occasion, l'occasion de personnes dans nos centres qui véhiculer les plus, s'en servir pour l'éducation, la prendre comme une opportunité pour une éducation, pour parler des rapports de domination sur différents angles. Tâcher d'armer un peu intellectuellement les personnes, ça nous semble, enfin, ça, c'est une super occasion de le faire. Plutôt que de côté en nous, voilà, pour ma part, j'ai terminé. Je peut-être c'est une ouverture suffisante pour qu'il y ait des réactions.
En tout cas, ce que je trouve intéressant dans les deux émissions, là, enfin, dans la première partie, c'est que. Ça peut s'adresser à la question du complotisme, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est aussi des postures, des préalables qu'on peut avoir dans toute réflexion politique, sociale qu'on peut avoir. Voilà, c'est ce que je disais en même temps.
En écoutant pareil les deux, je trouve effectivement il y a plein de pistes intéressantes dans ce qui est donné. Et je me disais, au-delà même de la théorie effectivement du complot, on est dans une période où, on le disait tout à l'heure, il y a énormément d'infos qui circulent. Quand on parlait de l'information officielle, la gouvernementale, elle n'a jamais été aussi présente et aussi suivie, donc forcément elle amène un nombre de réactions, et du coup on est noyé sous plein d'infos, et faire le tri là-dedans, je pense effectivement c'est complexe. Je trouvais ça intéressant ton intervention, Flo, tout à l'heure, sur le parallèle à la justice, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, les deux choses qui vont être utilisées pour dire si une info elle est vraie ou pas, c'est soit la science, soit la justice. Et que la justice, on sait bien que bon, bah, les erreurs, sont extrêmement nombreuses, et que du coup, la science, en cette période, c'est pas facile de s'y repérer, parce que je crois, si on prend juste l'histoire... professeur Raoult, là, il y a de quoi se perdre aussi sur, dans ce champ-là, sur comment je trie une info ou pas, quoi. Et du coup, je trouve que ça crée quand même une espèce de flou dans lequel se situer n'est pas simple, et la démarche éthique ou la démarche scientifique, elle n'est pas toujours accessible à tout le monde. Le deuxième truc, moi, qui me plaignait aussi, c'est de se dire, j'ai l'impression que on cherche tous, alors c'est contre-pied qui essaie de prendre la zététique, hein, mais on cherche tous de l'information qui confirme ce qu'on veut penser. Et c'est renforcé par l'impact des réseaux sociaux, par le fonctionnement des algorithmes qui présentent plutôt des sites qui vont correspondre à des autres recherches, etc. etc. Et je ne sais pas là-dedans si... alors il y a tout, comment est-ce qu'on débat, les arguments que tu amènes, je trouve tout intéressant dans comment est-ce qu'on peut débattre de tout ça. Moi, je me demande aussi si dans le travail qu'il y a à faire, il n'y a pas comment est-ce qu'on fait causer les gens de pourquoi j'ai envie d'adhérer à cette théorie. Enfin, qu'est-ce qui me parle dans cette théorie Et alors là, on est sur quelque chose de beaucoup moins rationnel, mais comme j'ai l'impression que le fait d'adhérer à une idée, à une théorie, c'est quelque chose d'assez personnel, je trouve, de faire causer les gens là-dessus, de confronter différentes subjectivités, c'est peut-être aussi ça, que se donner un peu de hauteur, quoi. Alors voilà, je me dis, ça peut être une autre piste aussi, même si effectivement elle n'est pas forcément pour démonter point par point la dimension complotiste, quoi. C'est le dernier truc, moi je me disais...
C'est pas l'objectif qu'on proposait de faire,
ouais. C'est vraiment... Et le dernier point, moi, qui me venait aussi en termes de posture, je me disais, sur lequel faire gaffe, c'est dans tout ce qui est rumeurs, fake news, théorie du complot, etc., etc., il peut des fois y avoir, mais tu le disais, enfin, c'est pas du tout pour aller en compte, mais une posture un peu méprisante. C'est-à-dire que la personne qui croit, c'est celle qui n'est pas éduquée. Et du coup, cette posture-là, je pense qu'on soit tous et toutes vigilantes. Enfin, personne ne se dit je suis complotiste, personne ne se dit tiens, j'ai une bonne rumeur, je vais vous la raconter. Voilà, les gens, et c'est toujours l'autre qui relaie des rumeurs, des complots, des fake news. Et dans cette autre, je pense qu'il peut y avoir à plein de moments des éléments de mépris social assez forts, que ce soit. Enfin voilà, du coup, je pense qu'il y a une vigilance assez forte à avoir de notre point de vue en tant que. Qui anime, qui accompagne des jeunes et des adultes, quoi.
Ouais, carrément. C'est d'autant plus vrai ce que je dis sur un certain nombre d'aspects, notamment la substance de la vie, qui peut être éduquée, être instruite, être éduquée, et qui propage des formes de structure. On a un paquet d'universitaires à travers le monde qui sont des tenants de certaines des autres vidéos, qui on a des récentistes, ça va venir de l'étude. Voilà, c'est vraiment pas qu'une histoire d'instruction, ni même peut-être d'éducation. Mais ça me semble être.
Oui, puis on se disait la dernière fois aussi en termes de posture, mais peut-être je trouve que ça faisait écho à ce qu'Antoine tu rajoutais, c'était que évidemment c'est toujours désagréable de se rendre compte qu'on se trompe et que du coup c'est comment on accompagne ça et qu'on rentre pas dans un truc dévalorisant de la personne parce qu'elle s'est plantée. Enfin, en fait, on a tous et toutes à des moments relayé des trucs qui n'étaient pas vrais et on n'a pas forcément bien vécu le fait qu'on nous fasse remarquer et du coup c'est comment on travaille ça, quoi.
Après, je sais pas, j'ai envie de dire un dernier truc, comme là-dessus, là, sur un des enjeux, en tout cas, sur cette question du complotisme et des fake news, j'ai l'impression que c'est comment est-ce que chacun de nous se construit des références, en fait, à qui je fais confiance, comment j'ai connaissance de comment l'information se construit et comment les données se construisent, et que se construire un point de vue, c'est pas uniquement faire confiance à une personne ou quelque chose. Et se construire son point de vue, c'est faire des allers-retours entre différents types de sources que je suis capable d'identifier pour leurs avantages et leurs inconvénients. Et je pense qu'on a peut-être quelque chose à construire autour de ça avec les publics avec qui on agit sur connaître les différentes sources d'information, les identifier, être capable de pointer leurs avantages et leurs inconvénients pour s'en parler et se construire nos opinions.
Pointer différentes subjectivités, différentes sources.
Évidemment, parce que s'il y a des certains journalistes qui ont intérêt à véhiculer telle théorie, nous-mêmes, on a intérêt à adhérer plutôt à telle théorie qui va dans notre sens et qui nous permet de justifier des fois notre comportement.
Ouais,
pendant qu'on est en train de discuter, là, je cherchais... en ligne, ce que tu disais tout à l'heure, Claude, pour avoir une petite illustration sur la question de Wikipédia et de l'encyclopédia universaliste, qui pouvait dire que tel ou tel média était une source incontournable. Et du coup, j'ai trouvé un petit article de l'université de Nice, Sophia Antipoli, qui fait un conseil à ses étudiants sur peut-on utiliser Wikipédia ou pas dans le cadre d'un travail universitaire.
Alors c'est d'autant plus intéressant que, je ne sais pas ce que tu vas en dire, ce qu'ils en disent, mais que l'université de Nice, Sophia Antipolis, c'est elle qui accueille le... Alors ça a été longtemps la seule, maintenant c'est plus la seule, il y en a une à Rennes, mais le seul enseignement de zététique en France. Et okay. Voilà, il y a un enseignement du FR zététique. Alors vas-y.
Je vous lis juste la dernière partie de leur article qui s'appelle « Avantages et inconvénients des deux encyclopédies ». Donc Wikipédia, grande accessibilité, actualisée en permanence, nombreux liens vers d'autres articles de l'encyclopédie, mais qualité inégale des articles et amateurisme, souvent malgré la vigilance des contributeurs réguliers. Depuis 2010, cependant, des partenariats sont signés avec des organismes officiels, Bibliothèque nationale de France, Muséum, et d'autres, vont permettre d'enrichir l'encyclopédie de façon fiable. Et malgré de nombreuses critiques, Wikipédia semble aujourd'hui incontournable. Encyclopédia universaliste, les articles sont signés par les meilleurs spécialistes, mais l'actualisation n'est pas régulière. L'encyclopédie n'est par ailleurs accessible que par abonnement, cher, et l'accès à l'annuaire Internet n'est pas évident. Il faut se poser dans les pages d'aide pour l'utiliser efficacement. Et à la conclusion, ils mettent, peut-on utiliser Wikipédia dans le cadre d'un travail universitaire? La réponse est oui. Mais il faut considérer Wikipédia comme un point de départ pour une recherche et toujours vérifier les informations dans d'autres ouvrages de spécialistes, dans des bases de données auxquelles, alors là, ils parlent de leur bibliothèque universitaire, mais auxquelles bon, les étudiants ont accès. Bon, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, ça met aussi en lumière tous les autres enjeux de la question de l'accès à l'information, la question du prix, la question de est-ce que c'est facile de s'y retrouver et qu'est-ce que j'ai comme outil pour m'y retrouver là-dedans, qui sont les contributeurs, il faut faire confiance aux seuls. Spécialistes scientifiques, sachant que, comme tu viens de le dire, Manu, bah, des fois, ils participent eux-mêmes aussi à des théories du complot. Il y a un truc qui est intéressant là, dans ce que je disais tout à l'heure, quoi, se construire une opinion dans l'aller-retour de différents types de médias et de production, on va dire, de connaissances.
Carrément. Moi, je vous avais trouvé deux autres articles que j'avais mis dans le pad, un truc qui a été publié sur le CERN, point info, qui est... une étude de 2009 sur la question de Wikipédia et un article de Science et Vie sur la science en ligne est-elle fiable qui date de 2019. On pourra vous mettre les liens sur le podcast de l'émission.
Et puisqu'on est sur une émission sur un zététique, Manu, j'ai dit que tu dis la revue qui s'appelle Science et le pseudo Science. Et du coup, moi, je la lis de temps en temps et je l'aime bien parce qu'elle vient justement produire le truc dont on parlait tout à l'heure. Quand on lit, on cherche aussi des choses qui valident nos points de vue sur le monde, notre regard, parfois justifier des positions qu'on a nous-mêmes envie de prendre. Et j'aime bien cette revue parce que des fois, elle vient justement me bousculer à des endroits où j'aime pas l'être. Donc c'est confortable parce que finalement je suis assise dans mon canapé en train de dire ça, donc ça me bouscule sans bousculer, on est d'accord. Hein. Mais je trouve que c'est aussi comment est-ce qu'on cultive ce plaisir-là finalement. Comment est-ce qu'on apprend à le développer, quoi. C'est de dire, bah oui, c'est aussi intéressant de sortir des fois des sources où on est dans une espèce de. On va toujours chercher un peu au même endroit finalement, quoi. Voilà, c'était juste pour dire que ça pouvait aussi être un plaisir.
Je pense pas négliger le fait que c'est aussi ce même plaisir qui peut être à l'origine d'adhésion de certaines personnes à la théorie. Côté, ah bon, ça aussi. Hein, j'aurais pas cru, quoi. Je veux dire, je suis bousculé dans mes a priori. Et, enfin, ça, c'était un peu ce qu'on disait dans la première émission. Hein, sur l'appétence pour le doute et pour le.
Voilà, bah j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire participer à la deuxième émission sans avoir écouté la première.
Ah non, c'est pas grave du tout. ça complète, ça fait des allers-retours, c'est parfait.
C'est très bien, ouais. Puis c'est agréable de pouvoir échanger avec différentes personnes. Enfin, moi, je trouve que c'est une vraie richesse à chaque fois qu'on invite des personnes à participer à la radio, d'un truc de revenir sur des trucs qu'on s'est déjà dit, mais avec un autre regard, etc. C'est agréable, quoi.
Non, mais c'est plus une piste, je ne sais pas si vous avez creusé les côtés esthétiques dans le, justement, on veut se convaincre de ce qui nous arrange ou quoi, toutes les théories qu'il y a actuellement qui tendraient à expliquer que le Covid-19 est bien le signe du dérèglement climatique, etc., etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que je serais assez curieux prochainement de pouvoir creuser un peu je pensais effectivement, c'est ce que je voyais dernièrement là, qui disait c'est toujours dangereux de mettre une signification à une maladie, et la personne renvoyait à bon bah si on se souvient du sida par exemple, c'est pour punir les homosexuels et les travailleuses du sexe. Enfin voilà, et du coup je trouvais ça intéressant de renvoyer ce truc là pour se dire mais attends, en fait quand on cherche à donner un sens à la maladie actuellement, et actuellement c'est plutôt fait par des gens qui sont des tenants écologistes ou des collapsologues ou des choses comme ça. Voilà, je serais curieux un moment de creuser plus ce truc-là aussi pour se dire, voilà, c'est... oui, on n'y fait pas attention parce que peut-être c'est des choses qui peuvent nous parler, et en même temps, est-ce que pour autant c'est juste
Ah oui, tout à fait, ouais. Non, moi j'ai pas creusé, pas suffisamment.
Il y a AIDS qui creuse un peu, je crois, là-dessus, qui a publié quelques articles et qui annonçait continuer à bosser sur cette question-là. Mais notamment sur ce que tu disais, Antoine, sur le lien avec le sida, en fait. Et ils ont commencé à creuser pas mal sur cet enjeu-là. Mais je ne sais pas où ils en sont, ça fait quelques semaines que je n'ai pas regardé.
Radio, 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 radio. Sans nous.
Eh bien, merci beaucoup. C'était encore un plaisir de faire de la radio avec vous. Et puis, bah, n'hésitez pas à revenir, à nous envoyer des sons. Les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas non plus à nous proposer des contenus ou à nous proposer de participer avec nous à des émissions. Vous pouvez pour ça envoyer un mail à radio.sansnous@cemea-pdll.org. Et puis, on se retrouve mercredi pour la prochaine émission généraliste et lundi midi à midi et demi pour l'émission du midi. Voilà. Ce soir pour l'émission pour les mômes.
Super.
Salut.
Bonne journée à vous.
C'est Radio Sans Nous.
Non, prenez des notes hein, parce que je vais pas répéter. Hein.
Un témoignage à faire passer, une info à diffuser ou du temps pour filer un coup de main, bienvenue. Envoie-nous un mail à radio.sansnous@cemea-pdll.org.
Comment ? J'ai pas compris. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
Tu veux participer à une radio d'Éduc Pop ? Bah rejoins-nous.